On va commencer, comme prévu, par une introduction faite par le collectif Douardidoul, qui est le collectif s'occupe ici du projet dit de Lokenvel. Donc je vais laisser la parole à Lamine qui va introduire cette journée. Et bien évidemment, c'est une journée d'information et d'échange. Donc le but est d'échanger, d'informer. N'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. On est là pour vous répondre. Merci.
Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Démarmat Dan Hall. Moi, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu mythique qui est le château de Lady Monde. En fait, je ne sais pas si tout le monde connaît Lady Monde ici. Il y a certains qui vont voir que c'est un pied de nez ou. Mais en fait, c'est juste une ironie de l'histoire parce que Lady Monde, elle était mariée au roi du nickel, Robert Monde. C'est Robert Monde qui a construit ce beau château où on est aujourd'hui. Et il a fait fortune dans les mines, notamment dans les mines de Sudbury en Ontario. Et c'est les mêmes mines dont parle Richard Desjardins, le Québécois, dans True Story. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Et donc, c'était en 1920 à peu près qu'ils se sont mariés. Et donc, le château a été construit à peu près dans ces eaux-là, ici. Et donc, là, actuellement, c'est occupé par Eau et Rivière Bretagne. Et il y a un centre d'initiation à la rivière qui est juste en dessous, un aquarium de rivière. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'autre chose aussi que je voulais dire, je m'appelle réellement Lamine. C'est mon vrai prénom. Donc, ça n'a rien à voir avec les mines, à part les blagues foireuses que tout le monde me fait. Mais en fait, ça vient de l'arabe. Ça s'appelle, c'est El Amin, et puis ça veut dire le confident, la personne de confiance, le fidèle. Voilà, donc l'autre truc. Alors, pourquoi cette journée d'information pour le collectif? Pour nous, en fait, il faut remonter un peu dans le temps. En 2008, pour nous, il y a l'Union européenne, en fait, qui s'intéresse de près à la sécurité de ses approvisionnements en métaux stratégiques. Il faut sécuriser au Mali, au Niger, les mines d'uranium, par exemple, pour la France. Il y a au Zaïre, en RDC. La guerre, elle s'éternise là-bas depuis des années. Hein. Les gens continuent encore à se taper dessus. Le Zaïre, c'est important parce qu'il paraît que c'est le seul pays qui renferme tous les éléments en fait, du tableau périodique, là, le fameux tableau où il y a tous les éléments qu'on apprenait au lycée. Là. Et en Amérique latine aussi, c'est une époque aussi où la gauche revient au pouvoir. Et donc, les ressources deviennent quelque chose vraiment. Les gens ne veulent plus que les compagnies occidentales viennent piller les ressources. Donc, l'Union européenne se met à réfléchir dessus. Donc, dans les axes de réflexion, il y avait trois axes. Il y avait un axe sur le recyclage, un axe sur la démocratisation pour l'accès aux ressources minières, et un troisième axe, surtout, c'était le développement du potentiel local d'extraction. La France, à ce moment-là, en fait, prenant acte des lignes directrices européennes, en fait, se lance à travers notre ex-ministre Arnaud Montebourg, qui depuis est rendu, je pense, chez vendeur de meubles chez Habitat. Mais lui, dans ses délires, Arnaud Montebourg, avait inscrit quand même le renouveau minier dans son fameux redressement productif qu'il voulait faire. Et en fait, il avait aussi, encore mieux, il avait rêvé vraiment de créer une société nationale minière. C'est pas du délire, quoi. Et en fait, entre 2012 et 2014, il a quand même délivré, mais énormément de permis, quoi. Il a délivré à tour de bras plein de permis d'exploration. Ici, dans le massif armoricain, il y a 7 demandes. Donc, tout n'est pas encore délivré, mais il y en a qui sont déjà délivrés, sur les permis d'exploration. On risque de se tromper beaucoup entre les mots exploration, permis d'exploration, permis d'exploitation. Mais visiblement, ils jouent sur les mots EXP, qui commencent par... C'est ce que...
Explo,
et on ne sait pas si on parle d'exploration ou d'exploitation. Mais ce n'est pas grave, On est là pour ça, pour apprendre, et puis c'est quelque chose de nouveau pour nous, et puis il faudra qu'on ne soit pas dur avec nous-mêmes, quoi. Et aussi, en parallèle aussi, il y avait la réforme du code minier qui était lancée. Et ce qui est curieux, c'est que pendant cette période-là, si on tape sur Google entre 2010 et 2014, on tape « réforme code minier », et c'est marrant, dans les pages francophones, il y a pratiquement beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne qui sont mis aussi à réformer leur code minier. Alors moi, ça m'avait un peu choqué. Enfin, je me suis dit, mais c'est bizarre, tout le monde réforme, qu'est-ce qui se passe? En fait, il paraît que tous ces pays-là ont été accompagnés dans cette réforme-là par le Canada, qui est un peu le paradis des mines, quoi. Enfin, c'est la bourse d'échange de métaux et à Toronto. Et en juin 2014, en fait, il y a un article dans la presse locale ici donc, qui parle de la possibilité d'exploitation minière dans le massif de Lochinvall. Pour beaucoup de gens, pour moi, c'est incrédulité, stupeur, inquiétude. Tout le monde se dit, mais on est en 2014, mais ils sont tarés, quoi, ils ne vont pas ouvrir des mines. Enfin, c'est... Non, c'était bien ça, quoi. Et puis, finalement, donc, il y a des gens qui commencent à se réunir pour se questionner, pour surtout rester vigilant, se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et en se questionnant un peu, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de maires, tous les maires des 25 communes, sur le permis de Lochinvall, en tout cas, ici, il y a 25 communes, c'est la carte ici. Et les maires avaient reçu de l'information en juin 2014, en fait, qui leur expliquait le projet, tout le permis de Lochinvall. Ils ont eu, des DVD, des CD. Beaucoup n'avaient pas, quand même, de ces maires-là, n'avaient pas relayé l'information à leurs administrés, quoi. Alors, on se demande pourquoi. Bon, peut-être que... À l'époque, il y avait beaucoup qui ne comprenaient pas le projet en tant que tel, donc ils ne pouvaient pas en parler. Ils n'avaient pas assez d'éléments pour eux. Ou aussi, peut-être, il y a eu beaucoup de pression politique aussi. On n'avançait pas. On cherchait nous-mêmes l'information. Il y avait une espèce de chape de plomb. Ce manque d'information des populations ont motivé un groupe de personnes parmi lesquelles beaucoup sont ici présentes. En fait, à s'organiser afin de se renseigner, de se documenter sur les projets miniers existants, les pratiques économiques surtout de ces sociétés-là, en fait. C'était nous, c'est ça qui nous faisait beaucoup peur. Par exemple, Variscan, mine qui a fait la demande de permis, c'est une entreprise, donc elle est basée à Orléans. Elle a été fondée par deux anciens membres du BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Donc, c'est eux qui font toutes qui ont toute la connaissance du sous-sol, de ce qui existe dans le sous-sol actuellement. Ils ont fait pas mal. C'est réellement une banque de connaissances du sous-sol, quoi. C'est le terme, en fait. Donc, ils l'utilisent même, c'est banque de connaissances, quoi. En fait, elle a été créée, donc... Elle est financée par des capitaux australiens, dont une filiale de la banque HSBC, néo-zélandais, et des fonds d'investissement basés à Singapour. Enfin, je juste rappelle que c'est un paradis fiscal, Singapour.
Excuse-moi, là, tu parles de Variscan, pas de BRGM.
Ouais. Non, là, je parle de Variscan. De Variscan, pardon. Non, mais je disais que ça a été créé quand même par deux transfuges du BRGM. Alors, Variscan, bon, donc, dans le jargon apparemment économique, c'est une société, ils appellent ça des sociétés, des juniors, et c'est celles qui font l'exploration, et l'exploitation est faite après par des sociétés majors, enfin, les grosses compagnies...
Apparemment, pas forcément,
ils peuvent aussi faire. Mais c'est les majors, en gros, c'est les grosses compagnies voyous qu'on connaît, quoi, qu'on voit en Amérique latine et puis en Afrique faire n'importe quoi. Comment ces sociétés sont créées? En fait, elles génèrent la majeure partie de leurs gains, en fait, juste sur la spéculation. Ils spéculent sur le potentiel de tel ou tel gisement qu'ils ont trouvé. Et au niveau de la bourse, leurs actions montent et ils arrivent à lever des sous comme ça. Et elles font ça jusqu'à se faire soit manger par se vendre à une major et souvent c'est ça, quoi. Ou en tout cas, ou à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont fait croire qu'ils ont trouvé le plus gros gisement du monde, et en fait, la balloune se dégonfle à la fin, et puis ils ont ramassé quand même pas mal de thunes, et puis c'est pas. Il y a beaucoup ça aussi dans le domaine du pétrole. En Alberta, il y avait, c'était les rois de ça, quoi, en fait, pour rechercher du pétrole. Donc, en fait, nous, tout ça, ça nous a interpellés. C'est ce genre de compagnie-là aussi, quoi. Ça nous interpelle sur... Il y a beaucoup de questions, quoi. Par exemple, pour nous, par exemple, que le BRGM, qui est une banque publique de connaissances sur le sous-sol français, que de deux anciens employés pillent ce patrimoine d'études considérable à des fins spéculatives, c'est, il y a des problèmes d'éthique, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça ne choque pas les gens, quoi. Ils pillent le bien commun. Ils partent avec des connaissances et ils vont... Je vais en bourse avec pour se, voilà, pour se remplir les poches, quoi. Il y a pour moi aussi l'autre aspect, par exemple, pour ce type de société, c'est que aussi elle tire essentiellement, enfin, elle tire le revenu essentiellement de la spéculation boursière. Après, quand ils viennent nous faire ici un mirage, comme quoi ils vont créer des emplois, 500, 3000 emplois, enfin, on est dubitatif, quoi, que c'est ça leur, c'est un mirage, quoi, pour nous. Et puis, dernièrement aussi, il y a un mois, le fameux PDG, enfin, le directeur de Variscan Mines, M. Bonnemaison, vous avez dû lire ça dans le télégramme. Il est sorti dans le télégramme pour expliquer, moi, je vais vous le lire, hein, il dit, un sondage minier, c'est un trou qui est gros comme un verre de table et qui descend dans la roche. On ne met aucun produit chimique. Bon. Nous, on ne connaît rien, on n'est pas ingénieur géologue ni minier, Et par contre, à côté, enfin, nous, on lit quand même que Mark Cutifani, qui est le PDG d'Anglo-American, qui est l'une des plus compagnies, enfin, les plus grosses compagnies minières du monde, en fait, il explique aussi dans le Guardian, au début de cette année, il dit « De mon point de vue, nous avons beaucoup travaillé sur la sécurité et l'engagement communautaire, mais pour devenir vraiment durable, nous devons faire les choses très différemment de ce que nous avons fait jusque maintenant. » Donc, alors, il y a quand même, je ne sais pas qui c'est entre les deux qui nous prend pour des cons, quoi. Et enfin, vous jugerez, quoi. En fait, donc, pour le permis lui-même de Lochinvell, en fait, Gaël va en parler beaucoup plus, va expliquer, et puis Jean-François. En fait, il couvre 25 communes sur une superficie de plus de 330 km². Et bon, les métaux convoités, c'est essentiellement le tungstène, l'étain, le plomb, le cuivre et les matières connexes. Alors, je ne sais pas, c'est un truc qui n'existe pas dans le tableau périodique non plus, les matières connexes. On ne sait pas ce que c'est.
Si c'est tout le reste.
C'est tout le reste, ouais. Voilà. Bon, enfin, je ne sais pas, peut-être que des terres rares, on ne sait pas. Donc, c'est, tout ça aussi nous inquiète, ce genre de choses-là. Et voilà, donc nous... À la suite de tout cela, il nous a semblé naturel, au niveau du collectif, bon, donc, de s'organiser. Enfin, on a fait beaucoup, depuis le début, beaucoup d'organisations. Enfin, on a organisé des réunions publiques d'information dans toutes les com-com du périmètre. On a organisé des manifs à Guingamp. Il y a eu plus de 250 personnes. On a fait à Saint-Brieuc aussi, avec les autres collectifs, donc où il y a eu plus de 150 personnes. Et on a aussi fait... Alors, une balade qui avait très bien, qui était très sympathique dans la forêt de Quatnos, ici, juste en bas, où, qui est un peu le cœur de l'action, qui est à Lochinvell. En fait, le thème, c'était un peu promener-nous dans les bois avant que, pendant qu'on peut encore le faire, avant que... Voilà, donc c'était très convivial, très... Donc, voilà. Donc, le collectif s'est constitué. Bon, parce que, en réalité, bon, les dangers sont réels, quoi. C'est les dangers de pollution environnementale, de destruction de notre ruralité et de destruction aussi de notre tissu social. Nous, on pense que ces projets vont irréversiblement changer le territoire. Et c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe. Et on sait que, en fait, ces projets, et nous sommes conscients qu'hier comme aujourd'hui, c'est hyper important, la mobilisation. On l'a vu par le passé, c'est les projets, c'est la mobilisation qui a pu faire arrêter ce genre de projet pour nous. Et c'est important qu'on se mobilise, c'est pour ça qu'on s'est constitué. Alors, un dernier mot. Le dernier mot, c'est... le collectif est constitué, il y a une association derrière aussi, qui s'appelle Avenir et Vigilance, qui s'était créé en 98 aussi à la suite de déchets qu'ils voulaient amener dans le coin aussi. Et ce collectif, enfin, cette association a été réactivée justement parce qu'il faut une association qui ait 5 ans pour pouvoir ester en justice. Donc voilà, qui est là. Et puis s'il y a des gens qui veulent adhérer, ça peut être intéressant aussi pour aider. Voilà, il faut bien un peu de moyens quoi, pour faire tout ce genre de choses. Alors pour finir et donner la parole aux conférenciers, en fait, moi je voulais juste rappeler quelque chose. En fait. Il y a beaucoup de confusion aussi, quoi. On parle de salsigne, on parle de... Les gens nous disent, mais non, mais vous montrez des photos, vous faites peur aux gens, c'est plus ça, on nous parle de mine propre. Mais moi, j'ai envie juste de rappeler que salsigne, ça a été fermé en 2004, c'est il y a 10 ans seulement. Quand on nous dit qu'en fait, qu'on épouvante les gens, je pense que franchement, c'est notre époque, quoi. Et je veux juste vous lire ce que Hervé Pujol, qui est un chercheur du CNRS, ce qu'il expliquait, en fait, il a fait une journée d'information aussi, un colloque à Montpellier en 2013. Et dessus, il y a eu un bouquin qui a été tiré qui s'appelle Triste Mine, et dont André Picot, qui est ici, a préfacé l'ouvrage. Et il explique qu'en fait, c'est l'une des plus grosses catastrophes sociales qui a existé dans l'histoire des mines. C'était la plus grosse mine d'or en Europe. Et ça a été l'un des chantiers les plus coûteux de dépollution. Et au final, ils se sont rendus compte que ça a pas, ils sont pas capables de les dépolluer. Ils ont dépensé 125 millions d'euros, si on compte. C'est la Cour des comptes qui dit, en additionnant les pertes d'exploitation, plan social, réhabilitation, 125 millions d'euros. Et là, on ne parle pas des catastrophes sanitaires. C'est des zones où on... Sur les 20 communes alentours, ils ont noté plus de 80% de cancers de poumons. Plus de 110% de cancers du larynx. Et ces chiffres, c'est des chiffres réels issus d'une étude de l'European Journal of Cancer Prevention. Et il y a eu aussi des enquêtes de mortalité, dont une a révélé qu'il y avait 50 cas de cancer en 5 ans pour 300 salariés. C'est impressionnant quand même. C'est vraiment... Et c'est un échec total sur le camp sur le plan de la prévention des risques. C'est vraiment l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors après, de dire les gens qui disent « Ah oui, mais c'est juste l'exploration. Bah, » après, elle sert à l'exploitation. Et puis pour moi, c'est ça. Voilà. Donc je vous remercie. Salsigne. Alors Salsigne, c'est dans l'Aude. C'est à côté de Carcassonne, en fait. Voilà. Donc, je vous remercie et puis bonne journée. Voilà.